Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous. Merci à Michel de m'avoir invité, comme un certain nombre d'autres aventures intellectuelles, et ce soir, c'en est une. Et merci à François Valérian d'avoir écrit un livre qui est extrêmement dense, qui se lit par petites gorgées, comme un alcool fort, parce qu'il faut déguster petit à petit et réfléchir après avoir attaqué chaque section, parce que chaque section est extrêmement dense. Donc c'est tout à fait passionnant, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait compatible avec la notion de vitesse. Si vous voulez, il faut faire ça tranquillement. Alors, je ne vais pas aller du tout à l'encontre de ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs, clairement. Je vais plutôt essayer de vous apporter un certain nombre de compléments et en disant la chose suivante. Je pense qu'il y a eu, en fait, dans cette crise, l'arrivée, l'aboutissement de trois lames de fond qui ont démarré il y a à peu près 30 ans, un petit peu plus que 30 ans. Et c'est pour ça qu'à mon avis, cette crise est un petit peu différente des précédentes. Certes, il y a des croyances, certes, il y a toujours eu des croyances, mais finalement, comme ça a été bien dit dès le début, et je crois que c'est un des points extrêmement importants du livre, extrêmement frappant du livre, tout le monde a fait son job au bon endroit et sans qu'il y ait la moindre passion. Alors, si j'ose dire, quand on parle de le livre de Zola sur la bourse, il y a de la fureur, il y a de l'agitation, il y a etc. Là, en fait, tout le monde a fait son job. Il y avait une répartition assez analytique des jobs. Tout le monde était un peu complice dans l'histoire. Et ça a bien été dit, à la fois le banquier qui émettait des prêts dont il savait très bien qu'il ne serait pas tout à fait remboursé, celui qui prenait le prêt qui se disait qu'il ne le rembourserait jamais, mais qu'on ne sait jamais si le prix de l'immobilier augmentait, il y arriverait quand même au moins en partie, celui qui titrisait, etc. Et finalement, il y a une espèce de risque systémique qui s'est mis en œuvre, il y a eu un mouvement systémique, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir si finalement ce risque, ce mouvement systémique a été la conséquence naturelle d'une certaine évolution ou pas. Alors, moi, je vais vous proposer trois lames de fond pour ouvrir un petit peu le débat. Et la première lame de fond, ça s'appelle le Market for Corporate Control. C'est quelque chose qui a commencé au début des années 80 aux États-Unis. Et finalement, c'est la prise de contrôle de l'économie réelle par l'économie financière. Il faut revenir aux années 70, où aux États-Unis se sont créés un certain nombre de conglomérats industriels, dont la logique stratégique était pas totalement évidente. Et finalement, on s'apercevait que les équipes dirigeantes étaient un petit peu plus drivées par leur propre ego que par la création de valeur actionnariale. Donc ça a fonctionné un peu comme ça. Puis on s'est dit, il faut tout casser. On a parlé de la théorie de l'agence, Jensen, MacLean, des académiques venant expliquer qu'il faut rendre le pouvoir aux actionnaires. Donc on a rendu le pouvoir aux actionnaires et à partir des années 80, il y a eu la volonté d'aller déréguler, déréglementer et puis de créer le Market for Corporate Control, c'est-à-dire de dire finalement les marchés financiers ont maintenant une mission. Et cette mission, c'est d'aller punir les mauvais dirigeants. Alors, votre société est cotée en bourse, vous faites un mauvais boulot, le cours de bourse s'effondre, c'est normal parce que vous avez mal travaillé. Et donc, il y a des gens à qui on donne les moyens financiers, les moyens juridiques, les moyens boursiers d'aller prendre le contrôle de l'entreprise, expulser l'équipe dirigeante qui n'est pas compétente et la remplacer par une qui sera efficace. Et comme elle est efficace, ça va créer de la valeur actionnariale. Donc finalement, a priori, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Simplement, cette idée a été largement véhiculée par un certain nombre de personnes dont la moralité n'est pas nécessairement garantie. On a vu arriver Michael Milken, on a vu arriver Drexel Burnham Lambert, on a vu arriver le marché des junk bonds. D'ailleurs, le premier CDO, c'est bien indiqué dans le livre de François Valérian, est écrit en 1927 par Drexel Burnham Lambert. Donc ça veut dire que déjà, ils avaient un sentiment de ce qu'il fallait faire au niveau de la titrisation. Et finalement, on a vu arriver des leverage buyouts, des opérations d'acquisition hostile, dont l'objectif n'était pas nécessairement d'aller créer de la valeur actionnariale, mais surtout de faire de l'argent rapidement. Le concept de green mail est arrivé à ce moment-là. Et on a vu M. Pickens sortir avec 700 et quelques millions de dollars d'une entrée-sortie sur Gulf Coal qui finalement a été achetée par Standard of California. Alors, est-ce qu'on est dans la valeur actionnariale? J'en sais rien, mais on est certainement dans quelque chose d'important. C'est que maintenant, les dirigeants, et depuis lors, et de plus en plus, ils regardent leur cours de bourse au quotidien. Ils ont tous un écran quelque part dans leur bureau et ils jettent un œil pour savoir où en sont le cours de bourse, leur stock option et tout ce genre de choses. Faire entrer le marché dans la vie de l'entreprise, c'est absolument pas anodin. Et notamment, il s'est passé quelque chose de tout à fait important, c'est que le monde académique, en lame de fond, a apporté un certain nombre de concepts. La valeur actionnariale, le coût du capital, la valeur actuelle nette, le taux interne de rentabilité. Quand j'étais petit et que je faisais mon MBA, enfin j'étais un peu plus que petit, mais quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais mon MBA à l'INSEAD, il y a 30 ans, on nous apprenait ça. C'est devenu quelque chose, c'est devenu monnaie courante, et à l'époque, c'était l'état de l'art, hein, c'était rocket science dans le domaine de l'évaluation des investissements. La chose la plus importante que fait l'entreprise pour créer un futur, c'est d'investir. Et comment elle décide maintenant de ses investissements? En actualisant les flux de fonds générés par l'investissement au coût moyen pondéré du capital et en comparant le taux interne de rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité intrinsèque de l'investissement, avec son coût de financement. Jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. Seulement, comment est-ce qu'on calcule le coût du capital et comment est-ce qu'on évalue le taux interne de rentabilité? Le taux interne de rentabilité a pour but de remplir la promesse qu'on a faite à son actionnaire et à son banquier. Donc la première chose à faire, c'est de payer ses frais financiers et de rembourser la dette en temps et en heure. Je pense que mon voisin sera relativement d'accord qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait une chose tout à fait utile. Ensuite, il faut rémunérer l'actionnaire. Et là, il y a un modèle. Et le monde académique a largement contribué à créer ce modèle. Il s'appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers. Et on multiplie, pour calculer la prime de risque, une espèce de moyenne de prime de risque historique. Et on le multiplie par un coefficient qui explique si vous êtes plus ou moins risqué que la moyenne. Je vous passe les détails. Tout ceci a apporté à M. Markowitz, M. Sharpe et M. Miller, le prix Nobel d'économie sur la gestion de portefeuille et tout ce qui traîne autour de ça, en 1990. Donc on est bien dans une période où on commence à voir l'influence de ce nouveau concept, et l'influence de ce concept va se traduire par la valeur actuelle nette généralisée. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule la prime de risque? Ben, on calcule la différence entre la rentabilité des actions et la rentabilité des obligations d'État. Mais si finalement on projette ça dans le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur actuelle nette moyenne des investissements que vous allez faire est égale à zéro. Et donc, quand on dit que le coût moyen pondéré du capital, c'est un coût d'opportunité, on reprend la théorie des marchés efficients, l'investisseur regarde l'entreprise, et en regardant l'entreprise, il se dit, voilà, moi je vais aller mettre mon argent ici par rapport à mettre mon argent là, et je ne gagnerai vraiment de l'argent, je n'aurai vraiment créé de la richesse qu'à partir du moment où j'aurai gagné plus que la moyenne que je pourrais avoir. Mais en moyenne, on ne peut pas gagner plus que la moyenne. Donc la valeur actuelle nette est moyennement égale à zéro. Vous voyez? Ce qui est quand même quelque part un problème. Et puis, on a comparé les gens les uns par rapport aux autres. Est-ce que vous pensez que quand vous faites un investissement industriel dans vos entreprises, les investisseurs sont au courant de ce que vous êtes en train de faire? La réponse est non, parce qu'il y a une asymétrie d'information et parce qu'il faut cultiver l'asymétrie d'information. C'est la source même de la confidentialité et donc de la sustainability, comme on dit en bon français, de vos affaires. Alors, il y a un problème quand ça rentre dans l'entreprise. Et il y a un problème parce que quand on dit que la valeur actuelle nette doit être positive, ça veut dire qu'on doit faire nécessairement mieux que la moyenne, ce qui est une espèce de course à l'échalote permanente. On est donc comparé en permanence les uns par rapport aux autres. Bien évidemment, un investisseur est tout à fait incapable d'aller dire « Vous êtes en train de faire un projet industriel ici et là, et je vais calculer la valeur actuelle nette et je vais voir si vous avez raison ou si vous avez tort. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'en remet à des indicateurs un petit peu plus macroéconomiques de l'entreprise. On mesure la rentabilité du capital, on la compare avec le coût du capital et on regarde si l'entreprise dégage aujourd'hui, à partir des investissements qu'elle a réalisés hier, une rentabilité suffisante pour rémunérer les ressources financières. Bon, jusqu'à là, ça a l'air très bien. Le seul petit problème, c'est que aujourd'hui, vous faites des investissements pour demain. Et la rentabilité que vous dégagez aujourd'hui, c'est les investissements que vous avez faits hier. Alors fondamentalement, comment est-ce qu'on peut estimer pour demain? Alors là, il faut faire confiance à des professionnels. Et c'est là la deuxième lame de fond. La deuxième lame de fond, c'est que ces professionnels s'appellent des agences de rating pour mesurer la qualité de la dette que les entreprises émettent. Ce sont des analystes financiers pour évaluer la qualité des actions émises par l'entreprise. Et ce sont des firmes d'audit qui expliquent que, grosso modo, quand l'entreprise présente ses comptes, elles ont fait un bon job et que ça donne une idée sincère et véritable de ce qui s'est passé dans l'entreprise. Ces trois institutions s'appellent des gatekeepers. Et il y a un très très bon ouvrage d'un monsieur qui s'appelle John Coffey, qui est professeur de droit à la faculté de droit de Harvard, et non pas à la Harvard Business School, très très différent. Et donc il a expliqué gentiment que depuis 1980, il y a eu une volonté de réduire la sanction sur la faute qui peut être commise par l'ensemble de ces trois institutions. Donc il y a une évolution du droit, et l'évolution du droit va vers une sorte de laisser-faire et de réduction de la sanction. Alors, on peut parler d'éthique, mais vous savez, l'éthique, finalement, c'est si vous pensez que vous allez gagner ça, et si vous êtes pris, vous êtes puni avec ça, vous ne le faites pas. Si vous pensez que vous allez gagner ça en faisant quelque chose, et si vous êtes puni, éventuellement, vous allez perdre ça, vous allez avoir une motivation un petit peu plus supérieure. Nos amis économistes appellent ça la fonction d'utilité. Donc, très concrètement, si vous voulez, à partir du moment où il y a un mouvement juridique qui va vers la réduction de la sanction, eh bien, nécessairement, il y a des gens qui vont faire des choses qui ne sont pas nécessairement très, très propres, si vous voulez. Et la sanction, elle existe moins au niveau de, ce qu'est, de ces gatekeepers, qu'on aimerait bien transformer en profession au passage, hein, c'est-à-dire des gens qui ont une mission vis-à-vis de leurs clients qui ressemble à la mission de l'avocat, la mission du médecin, etc., etc., véritablement de proposer aux clients quelque chose de raisonnable. Bon, ceci étant, vous voyez tout de suite que quand on a cette réduction de la sanction, combinée avec l'arrivée des marchés à l'intérieur de l'entreprise, les choses commencent à devenir un petit peu plus compliquées. Notre contribution à nous, monde académique, elle a été très simple. On a sorti la théorie du portefeuille, Markowitz et compagnie, et donc prix Nobel en 1990. En se posant pas trop de questions, ou plus précisément en n'apportant pas véritablement de réponses concluantes, a quand même trois questions qui sont fondamentales dans la politique financière de l'entreprise. Quelle est la prime de risque que l'on doit mettre dans le calcul du coût de capital? Si on ne sait pas répondre, ça veut dire qu'on ne sait pas calculer le taux d'actualisation. C'est quand même un peu dommage, parce que c'est avec ça qu'on évalue les investissements. Quelle est la part réelle, la part optimale de la dette et des capitaux propres qui maximisent la valeur de la firme? Ça s'appelle le capital structure puzzle. Et quelle est la politique de dividende et de rachat d'actions qui maximise la valeur de la firme? Ça s'appelle le dividend puzzle. En finance, en corporate finance, quand on ne sait pas, on dit que c'est un puzzle, si vous voulez. Et donc, il y a des puzzles partout sur des choses qui sont un peu importantes. Alors, par contre, on a fait des très beaux modèles. Et on a fait des très beaux modèles mathématiques dans le domaine académique. Et ces modèles mathématiques ont donné le sentiment aux gens que, finalement, on contrôlait, on modélisait complètement le risque. Et ça a donné une espèce d'illusion de la vérité. Et ça, c'est important, parce qu'on a parlé de croyance, et c'est tout à fait important de parler de croyance. On pourra aussi parler d'ignorance. Et quand on parle de croyance, ça veut dire qu'on va vendre à des gens des rêves, etc., etc., mais les gens, ils vont acheter ces rêves. Okay? Et pourquoi ils achètent ces rêves? Parce que, de temps en temps, ils y croient aussi, parce qu'ils lisent dans les journaux, etc. Et puis aussi, pour une raison qui s'appelle ignorance. On peut citer Madoff. Madoff a sorti des produits toxiques, est un escroc, quoi. Bon. Enfin, les escrocs existent depuis que le monde existe, donc ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Il y a des gens qui ont perdu toute leur fortune avec Madoff. Moi, j'imagine très bien qu'on perde 20% de sa fortune avec Madoff. Pourquoi? Il dit, moi, ça rapporte du 15%, ça marche, il a trouvé une sorte de martingale, etc., etc. Mais aller perdre 100% de sa fortune avec Madoff, ça veut dire qu'on a tout mis. Ça veut dire que l'on n'a pas compris le principe fondamental de la finance, qui est quand même quelque part de diversifier un petit peu. Donc il y a une espèce d'ignorance, et cette ignorance a été entretenue par le fait que les modèles qu'on a pu sortir avaient l'air de démontrer qu'on contrôlait tout. Il y a un très très bon ouvrage de M. Bernstein dont le titre est « Plus fort que les dieux » et qui montre que finalement toute cette évolution sur le monde des probabilités et des statistiques avait un objectif qui était de démontrer qu'on était plus fort que les dieux, c'est-à-dire qu'on contrôlait tout et qu'on maîtrisait tout. Quand on jouait à pile ou face autrefois, si ça tombait sur pile ou si ça tombait sur face, c'était Dieu qui avait décidé si ça devait tomber sur pile ou sur face. Puis après, on s'est dit que c'était moitié-moitié. Bon, eh bien, vous voyez que là, on commence à contrôler ce qui se passe. Et à partir du moment où on contrôle ce qui se passe, il y a un certain nombre de gens qui vont dire « Non, mais rassurez-vous, on a tout compris et donc on contrôle tout ». Et le monde académique de ce côté-là a été un tout petit peu désagréable, c'est-à-dire qu'on a fait croire que les modèles, c'était la réalité. Alors, on a construit des modèles. Les modèles se sont effectivement traduits par la réalité parce que tout le monde utilisait les mêmes modèles avec à peu près les mêmes paramètres. Et au lieu d'expliquer que c'était des modèles et que finalement le futur n'était que, comme disaient mes collègues et voisins, une opinion, le risque n'est qu'une opinion sur le futur, on a dit le futur va ressembler au passé, c'est tout à fait clair, il n'y a qu'à regarder le monde d'aujourd'hui pour comprendre que dans 10 ans, il ressemblera exactement à ce qu'il était aujourd'hui. Et donc, le futur ressemblera au passé, il suffit de faire une belle analyse macroéconomique, microéconomique et tout ce que vous voulez, et à ce moment-là, on a la réponse à toutes les questions. C'est quand même un peu dommage, d'autant plus qu'il a été dit que toute cette théorie de l'efficience, etc., remontait au début du XXe siècle. 1900, la théorie sur la distribution normale des rendements boursiers, etc., etc. Il y a d'autres théories qui ont émergé à ce moment-là. Vous avez des gens comme Lévy, comme Mandelbrot, qui ont émis un certain nombre de théories qui n'ont pas été écoutées. Et ces théories disaient qu'il y avait une espèce de queue de distribution qui était un tout petit peu plus épaisse que celle qu'on voulait bien croire. Et en fait, personne n'y a cru, ou plus précisément, on n'a pas voulu y croire. La courbe de Gauss, qui est relativement dominante dans la pensée économique orthodoxe, elle a le bon goût de descendre très très vite. Alors, comme elle a bon goût de descendre très très vite, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre trop de capitaux propres, parce que vous savez, hein, quand on est à trois écarts types, on n'a absolument aucune chance que ça se passe. Seulement, voilà, ça ne marche pas, on sait que ça ne marche pas, mais il y a une espèce de barrière, de frontière, d'omerta, de tout ce que vous voulez. On dit non, non, mais Mandelbrot, c'est trop compliqué, ça fait des équations dont la résolution nécessite trois pages de calcul, c'est absolument impossible à mettre sur informatique, etc., etc. Et donc, fondamentalement, ça ne marche pas très, très bien, il ne faut pas écouter et il faut garder la courbe de Gauss. OK ? C'est un peu un vrai problème. Alors, il y a quelques temps, on m'avait demandé de parler dans une réunion, et on m'a dit, finalement, vous êtes prof, mais vous avez fait des études. Alors, dans vos études, quel est le cours qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus servi dans votre vie financière ? J'ai fait mes études dans une maison qui était, jusqu'à il y a quelques années, pas très loin d'ici, puis qui est partie dans le Grand Est, qui s'appelle l'École nationale des ponts et des chaussées. Et j'ai expliqué que le cours qui m'avait le plus servi dans la vie financière, c'était le cours de mécanique des sols. Alors, il y a eu une petite surprise dans la salle, et je vais quand même vous expliquer pourquoi. Alors, dans le cours de mécanique des sols, qui m'a laissé des souvenirs émus, on calculait le nombre de fois qu'il fallait faire passer un engin sur une route qui était en train de se stabiliser. Il y avait un modèle. Le modèle expliquait que, avec des abacs, avec tout, des graphes, enfin, et ça vous disait, avec trois chiffres après la virgule, combien de fois il fallait passer le truc. Alors évidemment, on arrondissait à l'unité supérieure, parce que trois chiffres après la virgule, c'était pas un nombre entier, si vous voulez. Bon. Donc on arrondissait, et puis alors, pour avoir une bonne note à l'examen, il fallait trouver le chiffre avec trois chiffres après la virgule. Voilà. Bon. Et puis après, on multipliait par f égale 3. Voilà. Et alors, F multiplié par F égale 3, ça veut dire que, tu sais, on ne sait pas très bien, en fait. Hein. Donc, pour que ta route, elle tienne, et puis on ne sait pas très bien ce qui va se passer demain, on ne sait pas très bien quel événement exceptionnel, une pluie, une tornade, un glissement de terrain, etc. Donc, s'il faut passer 7 fois, 21, c'est pas mal, tu sais. Bon, alors la question qu'on posait toujours, c'était pourquoi ça s'appelle F ? Ça, on n'a jamais réussi à me donner la réponse. La deuxième question, c'était pourquoi 3 ? Oh, ben, crois-moi. D'accord ? Et donc, ma recommandation, que je pourrais soumettre à l'avis de notre banquier avisé, c'est « Et si les banques multipliaient leurs capitaux propres par 3 ?» Jusque pour qu'on ne sait jamais, etc. Et à ce moment-là, on aurait beaucoup moins de risques. Le too big to fail ne poserait plus de problème. Et à ce moment-là, effectivement, les directeurs de risque, notamment à l'intérieur des banques, pourraient exercer leur métier avec un petit peu plus de sérénité. C'est juste pour ouvrir le débat. Merci.